Donc, vous demandez de vous présenter un petit peu. Donc, comme si on ne se connaissait pas, hein, genre, si je vous pose des questions dont je connais la réponse, c'est normal. Non, non, mais. Donc, je sais comment vous appelez, mais bon, ça me ferait plaisir que vous me le redisiez un
D'accord.
petit peu.
Donc,
Allez-y.
je m'appelle donc Pierre Apostolo. Je suis né en 1946, plus précisément le 28 juillet. Donc, je suis donc du signe du Lion, bien que je pas, je m'attache pas trop au signe, mais bon.
Non.
Non. Donc, je fais partie des Lions, comme Mireille et comme Stéphane. Et Mireille, lui, étant du signe de la Vierge. Il
La
aurait pu
queue.
être lion,
J'ai
mais
failli.
il a failli. Il a dépassé la date pour être des lions aussi. Voilà, donc je suis né à Septem-les-Vallons, plus exactement au Cayolle. Je suis né à ma maison, et non pas en clinique ou à l'hôpital comme on le fait aujourd'hui, puisque ma mère, elle m'a mis au monde dans la chambre, comme on faisait à l'époque, quoi.
Donc comme vos frères et sœurs.
Comme mon frère et comme ma soeur, non, ouais, exactement. Ouais. Et j'ai été assisté pour l'accouchement, parce que ça m'a été raconté à plusieurs reprises, par la boulangère des Cayolles. Puisque même encore aujourd'hui, quand cette personne me rencontre ou a l'occasion de me voir, et elle a dit dire que celui-là, je l'ai vu naître. Donc
Excusez-moi, je vais
c'était.
juste pousser la tasse qui, hop, parce qu'elle n'est pas stable, ça fait un peu du bruit.
Pour pas que, donc, parce qu'à l'époque, eh ben, c'était les amis ou qui venaient en premier, hein, ceux qui étaient à côté. Et donc, ben, ma mère, elle avait dû appeler, ou je ne sais pas, le temps que mon père arrive, c'est la boulangère qui est venue, qui a préparé ce qu'il fallait, quoi. Voilà.
Mais elle n'était pas plus accoucheuse
Non,
que
elle n'était pas
ça.
plus accoucheuse que ça, hein, elle était boulangère.
D'accord.
Alors, les brioches et les croissants, elle était la sage-femme. Voilà. Donc après, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ben, l'école à Septem, où j'ai connu Mireille, puisqu'on était en classe ensemble à l'école maternelle. Voilà, donc on était dans la même classe.
Ah oui.
Et voilà. Et donc c'était ma fiancée.
Déjà, la
Et ouais.
maternelle.
Et ouais.
C'est tard.
Il paraît, enfin, si, c'était ma fiancée, puisque je le disais, et donc quand on me demandait qui c'était ma fiancée, je disais que c'était Mireille Lafourche. Voilà, donc je suis resté à Septem jusqu'en 1957, puisqu'après je suis rentré au lycée. Et à cette époque-là, quand on préparait la sixième, puisqu'à l'époque on préparait la sixième, on passait un concours pour rentrer en sixième, on ne rentre pas comme ça, on passait un examen. Il fallait avoir un certain niveau pour pouvoir rentrer. Et de l'école communale de Septem, nous étions deux rentrés en sixième. Donc tu vois, c'était pas énorme, hein, il n'y avait pas beaucoup, parce que les enfants allaient au certificat d'études, normalement, et après le certificat d'études, ils allaient en centre d'apprentissage, et généralement, il rentrait très peu d'enfants rentrés au lycée. Donc moi, l'année où je suis rentré, on a été deux rentrés au lycée ou au collège, quoi. À l'époque, on disait au lycée. On est rentré d'ailleurs au collège, puisque nous on avait choisi, moi j'avais opté pour le collège qui était le collège Carnot à Aix et qui est aujourd'hui Gouvenargues.
D'accord, donc vous avez fait votre lycée à Aix.
Voilà, à Aix.
Et vous habitiez toujours au Septem quand même
J'habitais à
ou...
Septem et une des premières épreuves qu'on peut rencontrer, je dirais, dans la vie et dont on se souvient, c'est que quand je suis rentré en sixième, eh bien, donc l'autre qui était rentré, il s'appelait Raymond Vivès, il habitait un peu plus loin, il habitait Notre-Dame-Limite. Et lui, il était rentré comme pensionnaire. Donc il était pensionnaire. Et moi, j'étais rentré, théoriquement, j'aurais dû être demi-pensionnaire, puisqu'on prenait le car tous les matins pour rentrer. Et il s'est avéré que quand la rentrée est arrivée, il n'y avait plus de place de demi-pensionnaire. Donc j'étais obligé d'être externe, ce qu'on disait. Donc je devais aller prendre mes repas à l'extérieur. Mais bien sûr, je n'avais pas le temps de redescendre en septembre. Alors le jour de la rentrée, mon père est venu me chercher à midi, à la sortie du collège. Il m'a amené à l'avenue Pasteur, parce que quand il venait voir des clients à Aix, il y avait un petit restaurant à l'avenue Pasteur qu'il connaissait. Donc c'était des gens qui... Donc il avait pensé que bon, c'était un endroit fréquentable. Donc... Et l'avenue Pasteur, c'est, je ne sais pas si tu sais où c'est à l'ancien hôpital, à côté de où habitait André et Martine avant. Tu vois, donc au carrefour, tu montais le boulevard Pasteur et tu avais deux restaurants là. Il y a, maintenant, il y a une boucherie, il y a un hôtel, tu vois. Et ben, juste à l'angle du parking Pasteur, là, avant le parking Pasteur, il y avait Huguetti, qui était un ferronnier qui vendait des trucs pour les cantonniers. Et à côté, il y avait, ça s'appelait l'hôtel Pasteur, l'hôtel restaurant Pasteur, un truc comme ça. Donc le premier jour, il est venu, on est allé manger ensemble. Le deuxième jour, il est encore venu me chercher et m'emmener. Et à partir du troisième jour, ben, tous les jours, je partais avec mon cartable. J'allais au bout de l'avenue Pasteur parce que j'étais pas à côté quand même de Vauvenargues. Je faisais tout le boulevard. Je venais jusqu'à Bellegarde. Après, je prenais l'autre avenue. Je montais au boulevard Pasteur. J'allais manger. Alors, je me mettais dans mon coin. On me donnait ma serviette. J'étais tout seul à table. Donc, c'est un peu, un peu émouvant, quoi. C'est-à-dire, c'était... Et ça a duré pendant... j'ai dû faire ça à peu près pendant un mois. Avant que, en fait, on m'apprenne comme demi-pensionnaire. Parce qu'on attendait qu'il y ait une place. Qu'il y ait, voilà. Et donc, je suis rentré demi-pensionnaire, alors que tous les autres étaient déjà rentrés. Bon, bon. C'était pas facile pour moi. Quoi.
Ouais, difficile de première séparation avec la famille.
Ouais, c'est vrai que je m'en souviens, quoi. Je m'en souviens, parce qu'elle bouffait tout seul quand tu es à 11 ans, dans un restaurant où tu connais personne et tout. Bon, j'arrivais... Je me revois arriver à midi avec mon cartable, j'allais à ma table, je m'asseyais, j'attendais qu'on me serve.
Oui, et puis c'est plus difficile peut-être aussi pour s'intégrer dans le lycée aussi, finalement, de se faire des amis. Et...
Donc ça, c'était mon année de sixième qui avait démarré comme ça, quoi. Puis après, donc, j'ai fait, je suis resté à Vauvenargues jusqu'en première, puisqu'il n'y avait pas de terminale à Vauvenargues. Donc après, il fallait intégrer ou minier. Faire... Si, à Vauvenargues, il y avait les terminales, mais techniques. Donc, il y avait, parce qu'à l'époque, on faisait ou moderne ou technique, ou classique, mais classique, c'était à minier. Et donc, moi, je suis resté en moderne, je ne suis pas parti en technique. Et donc, ben, ensuite, quand j'ai dû redoubler ma première, parce que j'avais collé la première partie du bac, donc j'ai demandé à être pensionnaire, parce que j'en avais marre de faire les voyages. Donc, parce que tous les matins, prendre le bus à 7h, à Septembre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les bus de ville quand même, hein, à Aix. Ouais. Et quand on arrivait à la rotonde, le car nous arrêtait à la rotonde le matin. De la rotonde, on montait, enfin, moi à Vauvenargues, et Mireille, après, quand elle a été à Aix, elle montait jusqu'à Cézanne, à pied, et puis le soir, on descendait. Donc, et en plus, pendant les dernières années où j'étais à Vauvenargues, avant d'être pensionnaire, on n'habitait pas au Cayol, on habitait au Perret, à Tubier, à côté de Barnéou, pendant 2 ans. T'as pas dit ça, ma mère?
Non.
Mais en fait, on habitait Septembre, on habitait donc à Route de la Télévision, et on louait une villa. Mon père avait loué en 1946, d'ailleurs, ils sont venus habiter quand je suis né. Ils sont venus habiter au Cayol, donc une villa qu'ils louaient. Et la propriétaire, donc Roselyne, elle était née en 41, je crois, Roselyne, donc elle avait 4 ou 5 ans de plus que nous. Et bon, sa mère louait la villa, elle habitait une petite maison derrière, elle louait la villa parce que c'est un moyen de vivre, hein, de survivre, parce que son père était mort à la guerre ou un truc comme ça. Et donc elle avait dit, si un jour Roselyne elle veut la maison, bien entendu, il faudra la lui rendre. Donc à l'époque, c'était... tu te disais ça, et puis c'était parole d'honneur, on n'en parlait plus. Et Roselyne, quand elle a eu 18 ans, 19 ans, qu'elle a commencé à fréquenter, puis qu'après elle s'est mariée avec le frère d'Alain, Jean-Claude. Donc elle souhaitait habiter la villa. Donc mon père avait dit, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, tu me vends un morceau de terrain, de la propriété, pour qu'on puisse faire une maison. Et donc elle nous a vendu un bout de terrain, elle a vendu un bout de terrain à mon père, et un bout de terrain... au père de Jean-Claude, donc à son beau-père. Et on a construit 2 villas. La villa des donc où Alain, c'est là où on s'est connu avec Alain, puisqu'on était voisins, quoi, on est devenus voisins.
D'accord.
Et nous, on a construit à côté. Mais le temps de construire, On est allé habiter à Tubiers, parce qu'à Tubiers, mon père, il avait un ami qui était au Sénégal. Il était travaillé dans les chocolats ou dans les cafés, je ne sais plus où, au Sénégal. Et il avait fait construire une villa. Elle était en finition. Il fallait faire les peintures, il y avait des choses à faire. Et il préférait que quelqu'un l'occupe, la villa. Donc il a loué à mon père et nous, on a fait les peintures à l'intérieur. Pendant un an et demi, on est resté là-bas. Le temps que la maison soit construite, au Cayolle, quoi. Et moi, après, donc là c'est pire parce qu'on descendait en vélo de Tubiers, on laissait le vélo au bar de l'eau fraîche, au Cayolle, on prenait le car, on allait à Aix. Le soir, on arrivait, on descendait du car, on prenait le vélo, on montait à la maison, on est arrivé, il fallait
Un
faire le
petit verre
devoir.
de ouais.
Voilà. Bon, donc ça, c'était. Moi, j'en avais eu assez, j'avais dit à ma mère, je vais être pensionnaire. Hein, Et là, on habitait la nouvelle villa. Mais bon, néanmoins, moi, je préférais être pensionnaire. Donc, j'ai été pensionnaire la dernière année à Vevenargues. Et après, je suis rentré. Donc, je suis parti et je ne voulais pas aller à Migné. J'avais une aversion pour Migné. Bon, André avait fait toute sa scolarité à Migné. Et Migné, c'était. Migné et Vevenargues, on était des frères ennemis. Moi, je ne voulais pas aller à Migné. Et je suis allé au lycée Nord, à Marseille, en Mathelin. J'ai fait. Je suis rentré en Mathelin au lycée Nord. J'ai fait une année.
C'est quoi maintenant?
Mathélème, c'était ce qu'on appelait mathématiques élémentaires. À l'époque, en terminale, tu avais le choix entre philo, sciences ex, donc c'était tout ce qui touchait aux sciences de la vie, aux sciences naturelles, tu avais une langue, etc. Ou bien tu avais les gens qui étaient un peu plus matheux, donc les matheux et physique, maths physique, si tu faisais, c'était ce que les S ou les C, toi. Voilà, donc tu rentrais en Mathélème, mathématiques élémentaires, ce qui t'ouvrait ensuite la possibilité d'aller. Bon, là, moi, je me suis un peu loupé parce que j'aurais dû, au lieu de faire un mathélème, j'allais en mathélème parce qu'en fait, l'année du bac avait été supprimée. Enfin, c'est l'année où le bac a été supprimé en première. Donc, tu passais sur ta moyenne, si tu veux, tu passais en terminale sur ta moyenne. Parce que la première année, j'ai collé la première partie du bac, puisqu'avant, on passait deux parties. Donc, j'ai doublé la première. Et donc, ensuite, je me suis retrouvé, bon, en première parce que je redoublais. Donc, je marchais assez bien, donc moi j'avais des bonnes notes en maths et en physique, et donc du coup, ceux qui avaient des bonnes notes ont te proposé de rentrer en mathélème. Donc j'avais accepté. Et en fait, comme je voulais être. Enfin, après, je me suis décidé, j'avais envie d'être prof de gym. Quand j'étais au lycée Nord, j'étais pas trop dans la bonne voie, quoi. Je faisais des maths, et en fait, j'aurais mieux fait de faire sciences ex. Mais bon, c'est comme ça. Donc.
Vous avez eu votre bac.
Non, j'ai collé le bac en mathélème, puisque cette année-là, il y a eu 23% de réussite en mathélème. Et en plus, j'ai été très, très perturbé dans l'année de terminale, puisque mon père est tombé malade le 20, ça devait être le 27 ou 28 décembre, quand il a fait son accident cérébral. Et donc, moi, j'étais à la maison. Et donc, on est parti en urgence avec ma mère, parce que mon frère était sur la Jeanne d'Arc à l'époque, faisait le tour du monde. Margot était un peu jeune pour s'en occuper. Et donc, on s'est retrouvé à l'hôpital Nord pendant 15 jours, mon père dans le coma, puis ensuite il est parti à la Conception, à Marseille, donc en neurologie. On ne savait pas si on allait l'opérer, pas l'opérer, lui ouvrir la tête, pas lui ouvrir la tête. Enfin, donc là, on a vécu. Et là, tu vois, c'était la deuxième épreuve un peu de. Enfin, j'en avais eu une entre-temps, quand j'étais en première d'ailleurs. Oui, c'est quand j'étais en première, je suis parti en vacances en Italie. Un été, puisque bon, moi j'aimais bien partir un peu seul. Et j'étais parti en Italie, et donc j'étais parti à Ponza. Ponza, c'est les îles ponziennes, elles se trouvent au large de Rome. Tu as Capri, qui est plus connu, tu as Ischia, qui est aussi connu, et puis il y a Ponza, qui est une île, les îles ponziennes. Et donc j'étais parti avec un groupe d'étudiants, donc j'avais cherché un truc pour partir. André était parti en Angleterre une année, moi j'étais parti en Italie. Et quand je suis parti,
Ah non? Combien de temps vous êtes resté en Italie?
ben là, la première fois où je suis parti, non, on est parti pour les vacances, quoi. C'était un truc d'étudiant, quoi. Si tu veux, tu partais, c'était des voyages linguistiques, ils appelaient. Et donc, on était parti pour un mois. Tu vois, on devait faire 3 semaines à Ponza et on faisait 4 jours à Rome, normalement. Et au bout d'une semaine qu'on y était, un soir, au moment du repas, quand je suis arrivé, parce qu'on était entre étudiants, bon, je m'étais fait des copains de Marseille, il y avait enfin, on était tout un groupe, hein, on était une vingtaine ou une trentaine, mais on était dans un centre universitaire à Ponza. On était peut-être 150 ou 200 étudiants, il y avait des Espagnols, il y avait des Anglais, il y avait des Français.
Ouais,
Etc.
c'est sympa.
Et il y avait des Italiens aussi qui venaient à ce centre. Et un soir, j'ai trouvé un télégramme dans mon assiette. Rentrée d'urgence, papa hospitalisé, état grave.
Ouais, donc.
C'était 7h le soir, 7h30. C'était ma tante Paul qui m'avait écrit le télégramme. Et donc, je ne savais pas si mon père était vivant, s'il était mort, si ce que je devais faire. Ouais. Il y avait une responsable du groupe d'étudiants, donc c'est une Française d'ailleurs. Je suis allé la voir, je lui ai dit, voilà, il se passe ça, il faut que je rentre. Mais j'étais dans une île. Ouais. Alors, bon, elle le connaissait bien sur l'île. Il y avait, c'est un petit port, Ponza, tu vois, c'est un port un peu touristique. Ouais. Et il y avait deux boîtes de nuit sur le port, là, où on allait le soir pour faire la fiesta. Et donc, s'il y en avait une, c'était un Français qui la tenait. Enfin, il parlait très bien le français, il avait la famille française. Donc, elle m'a dit, on va aller voir, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, on va aller le voir, on va voir s'il peut nous emmener de nuit en bateau, parce que il y avait les ferries, les petits ferries qui faisaient la traversée. Il partait de Formia, et donc on arrivait à Ponza, et il faisait 3h30 de bateau. Mais c'était que dans la journée. Et, par contre, le cap le plus proche de Ponza, c'est le cap Circe, Circeo. Et là, c'était à peu près 1h30 avec un bateau qui marche bien, tu vois. Il n'y avait pas de port à Circeo. Il y avait juste... tu approchais la plage, quoi. Il y avait une plage. Et donc, on est allé le voir. Il a dit, ben, écoute, il n'y a pas de problème. Dis-lui qu'il fasse sa valise. Et entre minuit et 1h, quand la boîte aura démarré et tout, je l'emmène. Donc, elle est venue avec moi. On est parti donc à 1h du matin. Avec, avait un Riva, un Cliffcraft, tu vois, un bateau pour faire du ski nautique. Hein. On a mis la valise dessus, on est parti deux nuits au Cap, il est parti sur Circeo. On a mis 1h pour faire la traversée, parce qu'il avait un truc qui marchait bien, il m'a emmené gratuitement, quoi. Hein. C'était pour me rendre service, je ne l'ai jamais plus vu. Et on est arrivé à Circeo, je me rappelle, donc il avait un phare sur le bateau, on éclairait pour voir la côte, donc on est arrivé à la plage. On a retroussé les pantalons, la fille elle m'a accompagné, on a pris la valise sur le dos, on est descendu, et on est allé, on a cherché, bon, c'était de nuit en plus, donc on a cherché les lumières, on a vu un hôtel, on est allé à l'hôtel, on a téléphoné, et elle avait un copain qui travaillait à la RAI, à la radio italienne. Et elle m'a dit, je vais l'appeler pour voir s'il peut venir nous chercher, nous amener à l'aéroport, parce qu'à chercher, on n'était pas à Rome, il fallait qu'on aille à Rome. Donc elle a appelé son copain il travaillait, mais il ne pouvait pas venir, donc etc. Donc on a pris un taxi, et on est parti sur Rome. On a appelé un taxi, on est parti à Rome. Donc, elle m'a accompagné jusqu'à l'aéroport de Rome. On était allé voir si on pouvait trouver une place d'avion. Parce qu'à l'époque, c'était pas simple. Là. C'était en 64. Et donc, on a fini par trouver une place. Et c'est la première fois que je prenais l'avion de ma vie. Ça, c'était la deuxième épreuve. Je me suis retrouvé dans l'aéroport de Rome, qui est un aéroport immense. À devoir embarquer, je ne savais pas à quel moment. Je parlais un peu italien, mais bon, la première fois que j'allais en Italie, j'avais donc 17 ans, 16 ans et demi, j'avais 16 ans ou 17 ans, je ne me rappelle plus, c'est 17 ans, je devais avoir. Et donc, je me suis retrouvé là, et je me rappelle, j'avais pris un vol de la Pan America qui faisait. Rome, Nice, Barcelone, New York. Donc il y avait deux escales. Donc il partait de Rome pour aller à New York, il s'arrêtait donc à Nice, à Barcelone, et après il partait sur New York. Et donc je me suis mis sur un banc dans l'aéroport, puisqu'on m'avait dit, ben, vous êtes en liste d'attente, en gros, je me souviens vaguement. La fille, elle m'avait dit, bon, ben, écoute, je te laisse, puisque maintenant tu es à ta place d'avion. Donc elle était repartie en taxi pour retourner à Ponza, donc il fallait qu'elle se débrouille. Et on a enregistré ma valise, je me souviens, on m'a enregistré les bagages, on m'avait dit, donc on vous appellera au moment de l'embarquement, puisque vous êtes en liste d'attente. Et je me rappelle, le matin, l'avion partait à 8h, le matin je me suis entendu, il signore apostolo è chiamato alla porta, je ne sais plus laquelle c'était, donc je suis parti en courant, parce que je ne savais pas où étaient les portes et tout. Et je suis monté le dernier dans l'avion, quoi. Je suis arrivé, ils ont fermé la porte, et je suis arrivé à Nice. Donc à Nice, j'ai pris un taxi, je suis allé à la gare, j'ai pris un billet de train, je suis allé à Marseille, j'ai pris le bus, je suis monté à la maison, je savais pas où être, je savais toujours pas si, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone, je savais pas où téléphoner, rien.
Tout ça avec l'angoisse.
Ah ouais, je savais toujours pas comment allait mon père, hein. Je savais pas s'il était mort ou vivant. Et donc, quand je suis arrivé à Septem, je suis allé au bar de l'eau fraîche, puisque c'était des amis de mes parents, donc Fernand Bécchini à l'époque, et sa femme, et puis sa mère. Donc, quand je suis arrivé, ah, Pierre, tu es arrivé, tu es là, tout ça, et bien, ton père, apparemment, ça devrait aller mieux, on m'a dit. Voilà. Donc, j'ai dit, mais où il est? Je ne savais même pas où il était. Et il était à la clinique de la Madragueville. Donc, sur la route de Marseille, presque à Saint-Louis, dans le quartier Saint-Louis, une clinique, il était en train de clinique. Donc, j'ai repris un bus, parti à la clinique, je suis arrivé l'après-midi. Quand je suis arrivé, dans la cour de la clinique, il y avait mes oncles de Paris qui étaient arrivés. Il y avait toute la famille qui était là. Et donc, c'est mon oncle Marius qui m'a vu arriver. Donc, il m'a dit, eh bien, écoute, apparemment, ça va mieux. Enfin, bon, parce que dans la nuit, en fait, il avait fait une crise d'urée qui était montée, donc il était pratiquement condamné. Puis d'un coup, ça, les reins se sont débloqués. Donc, bon, la situation s'est améliorée. Et ça, donc, il est allé mieux, quoi. Voilà.
Donc, là, finalement, c'était pas grand-chose.
Non, non, c'était la première fois. Si, parce que là, on l'avait opéré en urgence, on lui avait enlevé la rate. Ouais, quand même. Parce que la rate avait éclaté. Mais on ne savait pas pourquoi. Et à l'époque, on ne s'est pas posé de questions. On a fait ablation de la rate, hein, et puis bon, après, ça, il y a eu complications après l'opération, parce que les chirurgiens, tu m'as compris, hein, clinique de quartier, on y a enlevé la rate. Hein. Puis après, il a fait une complication, donc les reins se sont bloqués, donc il y a la murée qui est montée. Et puis après, ça s'est débloqué, et puis bon, ça a duré un an comme ça, et puis jusqu'à l'année d'après, où il a fait un accident vasculaire au niveau du cerveau. Quoi.
Et vous pensez que c'était lié?
Ben, bien sûr, bien sûr.
D'accord.
Si on avait su pourquoi à l'époque, si on avait pu comprendre pourquoi il y a eu cet éclatement de la rate, je pense, parce que la rate, tu t'éclates à la rate sur un accident, sur un gros choc, sur, tu vois, c'est un truc violent. Et lui, la rate s'est fissurée, donc il est rentré parce que ça n'allait plus du tout. On l'a opéré en urgence, on a trouvé, parce que lorsqu'il a ouvert, le chirurgien l'a ouvert, il a cherché, il a trouvé la rate fissurée, fait ablation de la rate. On a refermé, quoi. On ne s'est pas posé de questions à l'époque, on n'a pas fait d'analyse plus que ça. Donc ensuite, ça allait mieux, ben, ça allait mieux.
Vous pensez que c'était dû à quoi?
La rate, c'est un filtre du sang, quand même, hein. C'est ce qui te régénère, etc. Ouais. Donc bon, le sang, après, il a dû avoir le sang qui s'est épaissi, machin, etc. Jusqu'au jour où il a fait un caillot, et il a fait un caillot au cerveau. Et donc ça, je crois qu'il avait fait donc son accident, enfin, il a été opéré, c'était au mois de juillet-août. Puisque moi j'étais en Italie, c'était au mois de juillet, et donc l'année d'après je suis reparti en Italie, moi, parce que je voulais absolument faire ce que j'avais pas fait l'année d'avant, donc je suis reparti pour un mois, donc je suis allé à Ponza, et donc j'avais passé mes vacances là-bas, c'est là que j'ai connu Rome aussi, parce que j'ai passé 4 jours à Rome ou 5, et après j'étais rentré, donc là mon père allait à peu près bien, quoi. Et c'est après à Noël, entre Noël et Jour de l'An, qu'il a fait son problème, et donc là, quand j'étais donc en terminale, et donc là, bon, une nuit sur deux, j'ai passé, parce qu'il fallait rester avec lui. Donc une nuit, c'était ma mère, une nuit, c'était moi. Et bon, donc il restait 15 jours dans le coma, avant qu'il se réveille, quand il s'est réveillé. Ça, c'était la troisième un peu épreuve, si tu veux, que j'ai vécue. C'est que le matin où il est sorti du coma, c'est moi qui étais. J'avais relié ma mère à 5h du matin ou à 6h du matin. C'était elle qui avait passé la nuit, donc quand j'arrivais, elle partait. Et quand je suis arrivé, il a ouvert les yeux et j'ai compris qu'il m'entendait. Donc je l'avais assis sur le lit et je lui parlais pour qu'il me réponde, quoi. Parce qu'en plus, on était, tu sais, à la conception, c'était des mini-box. Il y avait un d'un côté, un de l'autre, avec une chaise entre les deux, quoi. Tu passais la nuit assis sur la chaise à attendre le matin. Hein. Et donc je comprenais qu'il s'était passé quelque chose, quoi. Visiblement, il y avait un mieux. Et j'avais fait deux choses, j'étais allé chercher le journal pour lui faire lire le journal et pour essayer de voir s'il lisait, et je lui avais donné un papier et un crayon, et là je me suis aperçu qu'il n'y avait plus rien qui se passait, quoi. Il avait fait des ronds, il ne savait plus écrire, il ne savait plus tenir le crayon, d'abord il ne savait pas le tenir, et le vide total, quoi. Il ne savait plus, il pouvait pas me parler. Je me suis aperçu, j'avais appelé ma mère en lui disant, mais papa il s'est réveillé et tout, mais en fait moi je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout, quoi, parce que en fait d'une part il pouvait pas marcher, il avait le bras qui bougeait plus, et en fait il était hémiplégique, quoi. Et ça, c'est, on l'a découvert à 10h quand le tout-bu il a fait la tournée, et c'était J'étais avec ma tante Florette et mon oncle, qui étaient venus la veille. On avait vu le professeur Vigourou, qui était maire de Marseille après. C'était lui qui était en neurologie. Et la veille, il nous avait convoqués. Donc, il y a mon oncle, ma tante, mon oncle Guy, et ma tante Florette, qui est décédée hein, depuis, la sœur de mon père, et moi, donc, pour nous dire, ben voilà, je vais tenter une opération, enfin, je vais tenter une intervention exploratrice, il nous a dit. C'est-à-dire qu'il voulait l'ouvrir, voilà. Parce qu'il y avait une thrombose, si tu veux, il voyait qu'il y avait une grosseur, il ne savait pas si c'était une tumeur, un truc. Mmh. En fait, ça s'était décanté dans la nuit, puisque pareil, sous l'effet d'anticoagulant ou quoi, le caillot était passé, quoi. Et c'est là que le lendemain, en fait, mon père s'est réveillé. Et du coup, ils n'ont pas opéré. Mais ça a été à quelques heures après, il passait sur le billard, on lui ouvrait la tête, quoi. Hein.
Ouais,
c'est bon. Pour savoir. Ça aurait donné, je ne sais pas. Ça aurait été mieux, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'était l'année de ma TLM. Donc là, pendant un trimestre, finalement.
Donc vous êtes revenu vivre chez vos parents?
Ben, c'est-à-dire que mon père était à l'hôpital parce qu'après il est resté à la conception peut-être pendant un mois, je ne me rappelle plus exactement. Donc là, c'était toutes les une nuit sur deux. Ouais. Donc tu vois, quand tu es en maternelle, que tu as le boulot, les maths, le machin, la physique et tout, j'ai largué. Quoi. Ouais, j'ai décollé, j'y arrivais pas. Le week-end, je passais au chevet de mon père parce que ma mère a fait aller faire son repos aussi. Ouais. Et après, il est parti en maison de repos du côté de Sainte-Marthe, là-bas, il était. Donc. Parce qu'il fallait qu'il se récupère. Hein. Parce qu'après, il a recommencé à marcher un peu. L'orthophonie, le machin. Et il est resté comme ça avant qu'il revienne à la maison. Quoi. Donc moi, j'ai passé le bac dans ces conditions-là. Et en même temps, je préparais le CREPS. Je voulais être. Parce que, en fait, au lycée Nord, il y avait une classe qui était à préparation à l'UREPS. C'était l'année préparatoire. Donc après la terminale, tu faisais une année préparatoire pour entrer... Ensuite, pour entrer à l'UREPS.
Et vous y êtes allé à l'UREPS alors ?
Non, parce que j'ai collé le bac.
Ah, vous ne voulez pas repasser ?
J'ai passé les épreuves pour entrer en préparatoire UREPS au lycée Nord. Mais comme j'ai collé, cette année-là, il y a eu 23% de réussite en maths. En plus, on a eu des épreuves, parce qu'ils nous ont fait des épreuves de maths.
Non, mais vous avez fait quoi du coup ?
Mon père ne travaillait plus. Donc ma mère se retrouvait à la maison. Ma sœur avait 15 ans, mon frère il était sur la Jeanne d'Arc, il faisait le tour du monde. Ouais. Il ne savait même pas que mon père était malade, parce qu'on ne lui avait pas dit. Ouais. Donc moi je ne savais plus si je devais continuer, si je devais essayer de redoubler, si je devais... Donc j'ai dit à ma mère, écoute, je vais partir à l'armée, et puis comme ça je vais me dégager de ça, et puis je verrai bien en retour à l'armée ce que je ferai. Parce que je ne savais pas non plus, si tu veux, la situation dans laquelle allait se retrouver ma mère. Au niveau des assurances, au niveau des salaires de mon père, je ne savais pas.
C'est flou.
Je me posais des questions. Quoi. Et donc, du coup, j'ai arrêté. Je ne suis pas allé plus loin. Quoi. J'ai dit, tant pis, je pars à l'armée. Donc, on a essayé de faire jouer l'amitié d'un ou de l'autre pour que je reste dans la région. Et en fait, là, j'ai reçu ma feuille de route, parce que ça, c'était... j'ai passé le bac au mois de juin, quoi, en gros. Ouais. Donc, je suis resté là au mois de juillet, août, septembre. Donc là, je travaillais chez moi, hein, à la terrasse, en maçonnerie. Et au mois de septembre, on a fait les vendanges chez Alain Chastillon, notre ami, chez son père, parce que lui, il avait des vignes à Simiane, donc c'est là qu'il s'est coupé le doigt. Et donc, c'était 65, ça. C'était en 65, octobre 65. Et après, je suis parti le 1er novembre, je suis parti à l'armée. Et en fait, au lieu de rester à Aix, comme on espérait, je suis parti à Colmar. Voilà. J'ai fait deux mois à Colmar. Puisque quand je suis arrivé, ils ont vu, si tu veux, sur les papiers, quand tu remplis tes fiches, tes machins devant, moi, j'avais marqué que j'avais préparé le CREPS. Donc on m'a dit, est-ce que tu es intéressé pour être moniteur de sport dans l'armée ? Je lui ai dit oui. Bien entendu. Donc elle m'a dit, bon, le seul truc, c'est qu'il faut partir deux mois en Allemagne pour faire une préparation et passer un diplôme qui s'appelait de moniteur de l'armée de l'air. Quoi. Mais il fallait aller passer deux mois en Allemagne pour faire la préparation, passer le truc, et puis revenir être affecté dans le service des sports de l'armée de l'air. J'ai dit, ok, moi je pars. Hein. Donc du coup, je suis resté deux mois, le temps des classes à Colmar, mois de novembre, et... Au mois de début décembre, on est parti en Allemagne. On est parti en Allemagne à l'art, donc après la frontière, après le pont de Kiel à Strasbourg. On est resté 2 mois. Là, on se levait à 6h du matin. À 7h, on était sur le terrain. On se tapait à peu près 8-10 heures de sport par jour. C'est sport à outrance, sport militaire, hein. Combat choc, lancer de grenade, parcours du combattant, ouais, plus tous les sports co, puisqu'on devait être à même de pouvoir arbitrer n'importe quelle rencontre, vrai, participer à des rencontres, etc. Donc, bon, pour les sports co, c'est bien. Donc, pendant 2 mois, j'ai bouffé du sport à outrance. Et après, on a été remisé dans nos services d'origine. Donc, je suis reparti à Colmar, au service des sports de Colmar. Donc, j'étais moniteur de sport pendant le temps de l'armée. Quoi. Donc,
là, et après, vous n'avez pas pu continuer à faire sport, ça après l'armée?
Non, parce que c'était pas sûr. Enfin, on pouvait faire convertir le diplôme. Il aurait fallu que je m'engage, en fait, parce qu'ils nous ont proposé après, quand on était aide-moniteur, parce qu'aide-moniteur, c'était les appelés. On était donc avec un adjudant, un agent en chef qui était lui moniteur. Mais on était dans les services du sport, donc on pouvait faire le sport aux nouvelles recrues, on leur enseignait le parcours
sympa du combattant. Comme armée.
Voilà, c'était sympa. En plus, je jouais au foot, moi, donc j'étais dans l'équipe de foot. Donc j'étais avec mon copain, donc Jean-Pierre Gazman, peut-être tu en as entendu parler, que j'ai retrouvé 35 ans après, là.
Ah, si.
Voilà. Donc, j'étais avec Jean-Pierre. On était au service des sports, tous les deux, de Colmar, et avec un prof de gym, parce que les profs de gym, ils étaient affectés directement dans les services de sport. Et donc, on est resté. Moi, je suis resté jusqu'au mois de mai, à Colmar. Donc, j'ai fait 7 mois, à peu près, là-bas. Et ensuite, j'ai fini par avoir ma mutation, donc, pour l'état de santé de mon père. Donc, j'ai fini par obtenir d'être rapproché pour les hommes familiales. Et donc, on m'a affecté à la base aérienne d'Aix. Donc au mois de mai, je suis arrivé à la base d'Aix, la BA 114. Et j'ai intégré le service des sports de la BA 114. Donc je suis venu comme moniteur de sport à la BA 114. Donc là, c'était royal, parce que le soir, je rentrais à la maison, je ne couchais pas à la caserne. Hein, donc on rentrait tous les soirs à septembre, je jouais au foot à outrance, j'étais dans une super équipe de foot. Donc pour moi, c'était la mairie, quoi, l'armée. Mais bon, néanmoins, je sentais arriver la fin de l'armée, et puis je me disais, bah, après, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Donc, c'était l'époque où on commençait à parler, j'avais entendu parler d'informatique. C'était 67, ça. Ouais, c'était en 60, oui, je suis parti en 66, 67, complet, et donc j'ai été libéré en février 68. Et donc, j'ai dit, bon, je vais me lancer dans l'informatique. Je ne savais pas ce que c'était, mais bon, ça avait l'air de m'intéresser à peu près. Donc je me suis renseigné, et à Marseille, il y avait c'était des gens de la sécurité sociale, d'ailleurs, qui avaient organisé c'était des cours du soir. C'était des boîtes privées, quoi. C'était des profs privés qui faisaient une préparation à un diplôme de programmeur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 écoles. Il y avait ou Marie Curie à Marseille qui faisait un BTS informatique, les premières sessions de BTS informatique, pour les gens qui avaient le bac, qui rentraient là, en BTS informatique, ou bien c'était des trucs privés. Et comme à la sécurité sociale, ils allaient informatiser, ils avaient monté des cours de programmeurs pour des gens de la sécurité sociale, et ils prenaient des gens. Et moi, j'avais demandé, ils faisaient ça en cours du soir, donc j'avais demandé autorisation au commandant de la base. Et donc, 3 soirs par semaine, j'allais suivre les cours de programmeurs pour passer un diplôme de programmeur. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'informatique. Quoi, parce qu'un jour, par hasard, j'ai rencontré un ancien copain de Wavenargues qui venait voir jouer au foot à la base aérienne, et puis qui voulait se faire pistonner pour ne pas faire l'armée, qui est mon copain Jean-Yves Gélin. Et il m'a dit, on a discuté, qu'est-ce que tu deviens? On avait été en classe ensemble 2 ou 3 années de suite. Quoi. Et moi, je jouais gardien de but, donc il était à côté de moi, on pouvait discuter. Et il m'a dit, mais viens me voir, moi je suis un truc au ministère de l'équipement, on va recevoir un ordinateur, le mec il va embaucher des programmeurs, donc viens me voir, je te présenterai, c'est un mec sympa. Et tout. Je suis allé, donc à l'époque c'était pas le CT, ça s'appelait le SEA, le service d'études des autoroutes, à la venue de l'Europe. Et en bidasse, un soir je suis sorti, au mois de février, je suis allé le voir. Le gars il m'a accueilli, il m'a reçu, il m'a écouté, je lui ai raconté ma vie, mon histoire, pourquoi j'avais fait ça, etc. Ouais. Il m'a dit, ben ok, revenez me voir quand vous êtes libéré, je vous embaucherai.
Ah, j'ai un peu découvert le secret du CT de votre embauche.
Et voilà, comme je suis rentré au CT, donc effectivement, j'ai été libéré fin février, donc le 28 février, tout simplement. Et le mars, j'ai intégré le CT, quoi, enfin le SEA, en tant que programmeur, puisque j'étais allé le revoir. Il m'avait dit, vous revenez me voir une semaine avant d'être libéré. J'étais allé le voir, il s'appelait M. Humbert, un ingénieur en chef de la construction, donc un IPC, un ingénieur des ponts et chaussées, un X-pont. Hyper sympa, hyper gentil, très paternaliste et tout. Et c'était le premier service informatique du ministère de l'équipement qui était créé. Mmh. Il n'y avait jamais eu d'ordinateur dans le ministère. Et lui, comme il était très féru, enfin très poussé, là, il voulait pousser le ministère à développer l'informatique, il avait été nommé à Aix pour lancer les premières études autoroutières sur ordinateur. Et il m'avait dit, bon, mais de toute façon, je vous embaucherai. Si ce n'est pas comme programmeur, ce sera comme dessinateur. Mais comme mon histoire l'avait sûrement un peu ému, ou je ne sais pas, tu vois. Et donc, je n'ai jamais fait une lettre d'embauche, rien, hein, sur ma bonne parole. Ouais. Il m'a dit, je vous embaucherai, venez me voir, je vous embaucherai. Et quand je suis rentré, il m'a dit, ben voilà, ça va, vous commencez lundi, passez quand même votre truc, c'est privé, mais ce n'est pas grave. Il m'a dit, parce que je n'avais pas encore passé mon diplôme. Un truc, j'avais passé la semaine où je suis rentré, d'ailleurs. Et il m'a embauché, donc il m'a...
En plus, c'est vrai que ça devait être intéressant de créer l'informatique, finalement, d'innover, de faire un truc qui devait être passionnant.
Quoi. Il y avait trois personnes qui avaient fait BTS informatique à Marie Curie, trois copains, donc ils sont partis à la retraite l'année dernière. Et donc, il y avait eux trois. Et puis, il y en avait un qui était assistant mathématique, mais il n'est pas resté, il est parti très vite. Il y avait un autre copain, Bernard Régul, qui était aussi. Et moi, donc on était six au département informatique, à la division informatique. Et monsieur Humbert.
Attendez-vous. Portable qui sonne, non ? Je m'entendais quasiment, c'est pas grave, pardon.
Et donc la division informatique, elle a démarré comme ça, du CP. Donc on était SEA, après on est devenu service d'études spéciales des autoroutes, et ensuite on est devenu CT, centre d'études techniques de l'équipement. Donc là, on était, moi je suis rentré en 68. J'ai fait dans la fonction publique, ils faisaient quand même il y avait un truc qui s'était organisé parce que comme ils voulaient des informaticiens, il n'y en avait pas. Mmh. Donc ils ont organisé, c'était le ministère des Finances qui organisait un concours de programmeurs dans la fonction publique. Donc monsieur Hubert nous avait dit, ben, inscrivez-vous pour au moins avoir un diplôme dans la fonction publique. Mmh. Donc là, c'était parcours par correspondance. Puis on est allé faire deux stages à Paris, une de 8 jours, une de 15 jours. Ensuite, on a passé le concours, enfin, l'examen de programmeur de la fonction publique pour avoir au moins le truc d'être reconnu en tant que programmeur fonction publique. Mmh. Donc ça, je l'ai fait en 69. Moi, les premières sessions qui ont été faites dans la fonction publique, pour être programmeur, il faut avoir au moins une diplôme de fonction publique. Donc. Voilà.
C'est beau. Et on va continuer la conversation avec Mireille après, peut-être. Ouais. On va faire une petite pause.